Bonjour Jean Viard.
Bonjour.
Faut-il rappeler que vous êtes sociologue, directeur de recherche associé CNRS au CEVIPOF. Vos derniers livres ont pour titre Le Sacre de la Terre, La Page Blanche aussi aux éditions de l'Aube, et le prochain aura pour titre La Révolution que l'on attendait est arrivée. Le livre devrait sortir en mai, toujours aux éditions de l'Aube. Alors question avec vous ce matin sur la France en 2050 avec une hausse des températures, hausse prévue de 1,5 degré. C'est un dossier inspiré du dernier numéro du 1 dans lequel vous apportez votre contribution, Jean Viard. Alors, cette France de 2050 plus chaude d'un degré et demi, avant de la commenter, dites-nous à quoi elle ressemblera. Ça vous fait sourire, c'est un bon début.
Ben oui, non, mais c'est-à-dire que ça va dépendre de ce qu'on fait, c'est-à-dire que c'est nous qui allons la construire. Hein. En gros, si vous voulez, moi j'avais entendu une fois à Bordeaux une conférence d'un responsable d'EDF, qui eux, ils travaillent sur l'idée que le climat va se déplacer de 500 km. Bon, c'est une hypothèse, mais ça permet d'avoir un ordre de grandeur.
Ça veut dire que le temps d'Alger sera celui de Marseille.
À peu près, et qu'en gros, à Lille, ça sera Marseille. Enfin, il y a plus que 500 km, mais vous voyez à peu près la distance. Donc, la question qui nous est posée tout de suite, c'est comment on construit cette France-là. C'est-à-dire comment on construit, on met les arbres, mais la végétation de Marseille à Lille. Comment on fait des fenêtres plus petites? Comment on utilise l'ombre? Puis, si vous voulez, un arbre planté, on estime que c'est 2 ou 3 climatiseurs d'économiser pour produire du frais dans la ville ou autour des maisons, tout ça. Donc, vous voyez, si on se met vraiment tout de suite à cette transformation, je dirais cette France-là est potentiellement habitable en prenant, j'allais dire, les structures culturelles des gens de 500 km au sud. Mais après, il y a la deuxième bataille, hein, il faut pas, qui est évidemment la plus importante quelque part, c'est de se bloquer à 1,5 degré, si possible même un peu moins. Donc, il y a 2 sujets. Mais disons, habiter la France, la rhabiller, on pourrait dire, pour faire image, avec au fond cette idée de ce réchauffement qui est certain. On peut un peu le réduire, mais en gros, il est certain. C'est un enjeu majeur. Vous voyez, ça change les montagnes, ça change les rivages, mais on le sait déjà, ça.
1,5 degré de plus d'ici les 30 prochaines années, on le disait, hein, le climat d'Alger qui remonte à Marseille, et puis on remonte comme ça jusqu'à Lille. Vous dites que ce n'est pas dramatique. Pourquoi ?
Mais parce que on vit très bien à Alger et que je préfère le climat d'Alger à suite à Madrasset, si vous voulez. C'est ce que je dis dans l'article. Si l'objectif c'est de s'arrêter au climat d'Alger, je vous rappelle que les Français ont longtemps voulu aller à Alger, donc ça ne devait pas être si pénible que ça. Et donc, il faut toujours avoir cette idée. Les sociétés plus au sud ne vivent pas de la même manière, évidemment parce qu'il fait plus chaud, mais elles vivent bien. Donc le problème, c'est d'anticiper et surtout de donner confiance aux gens. Ce qu'il faut éviter par-dessus tout, c'est la panique, si vous voulez, parce que le réchauffement climatique, climatique, c'est paniquant. Je veux dire, attendez, on vous fait des projections qui sont justes. Si l'homme ne fait rien, la Terre, d'ici un siècle, sera extrêmement difficilement habitable. Donc il faut maîtriser la panique, il me semble, en racontant le possible.
Et ces températures qui augmenteront d'au moins 1,5 degré d'ici 2050, vous estimez que ce n'est pas une hypothèse, hein ? Parce que même si on agit aujourd'hui, compte tenu de l'inertie du changement, eh bien ce sera bien cette réalité que vous nous décrivez ce matin.
Moi, je suis sociologue, donc je peux pas vous dire si ce sera exactement 1,5 million. Je relisais un texte de Jean Jouzel qui disait, ça va être entre 0,6 et 1,3. Il y a discussion, ça dépend ce qu'on fait. De toute façon, ça va être plus chaud. Voilà. Et autour de ça. Donc, si vous voulez, moi, je reprends ce chiffre parce que c'est celui qu'on trouve souvent. Ce qui compte, c'est de se dire, le fait que ça soit plus chaud, d'abord, c'est déjà là. Il y a déjà plus d'incendies, il y a déjà les glaciers qui fondent, il y a déjà des problèmes, par exemple en Bretagne, regardez à côté du Guilvinec, les dunes de sable sont très difficiles à maîtriser. Donc si vous voulez, il y a déjà une évolution nette.
Mais précisément, Jean Viard, autour du littoral, là, il y a l'élévation du niveau des mers, et ça pourrait être bien pire, il y a aussi la question des montagnes qui est fort préoccupante.
Bien sûr. Alors, la montagne, si vous voulez, je regardais l'autre jour une analyse là-dessus. Il y a trois morceaux, si on peut dire, dans la montagne. Il y a au-dessus de 3500 mètres. On estime, en gros, qu'il y aura encore de la neige. Il y a ce qu'il y a autour des villes. De Gap, de Digne, de Grenoble, de Chambéry. Ben là, au fond, les villes vont continuer à s'étaler. Donc, si vous voulez, le bas de la montagne sera urbanisé. Ce qui va être difficile, c'est entre les deux. C'est-à-dire là où il n'y a pas de neige, il n'y aura plus de neige, et en même temps, on ne sera pas dans la ville. Donc là, il y a une zone qui va être en grande difficulté. Vous voyez, c'est des choses qu'on sait déjà. Alors, est-ce qu'on peut trouver d'autres activités de vacances? Est-ce qu'on peut trouver, vous voyez, c'est à ça, moi, c'est pour ça que je plaide pour qu'il y ait un ministère de la protection civile, parce que toutes ces questions, il faut se les poser maintenant, parce que c'est long à transformer les
réalités. Il ne faut pas attendre que l'État fasse tout, ou que les États interviennent trop, parce que finalement, c'est plus les entreprises d'ailleurs qui ont fort à faire, qui ont déjà fort à faire.
Oui, il y a déjà une information des individus. pour que même chacun qui construit une maison l'anticipe avec une température supérieure en termes de taille des fenêtres, etc. Donc, si vous voulez, il y a déjà une information de l'individu. Il y a évidemment un rôle essentiel des collectivités locales. Il y en a d'ailleurs qui font déjà du très bon boulot. Il faut faire attention. Personne ne fait pas rien. Et puis, il y a évidemment les entreprises. Mais je pense quand même que l'État a un rôle à jouer parce que, si vous voulez, quelque part, la parole légitime, la parole sécurisante, c'est à lui de la porter. Après, c'est pas à lui de faire les aménagements, c'est aux responsables des territoires, essentiellement, évidemment, les élus locaux et les maires.
Et pour lutter contre ce réchauffement annoncé, il existe une solution, alors certes dangereuse, mais efficace, dites-vous, eh bien, c'est le nucléaire.
C'est-à-dire que si vous voulez, l'opinion publique française avec la pandémie a beaucoup changé. C'est-à-dire que vous voyez qu'à la fin, au début du quinquennat d'Emmanuel Macron, il y avait 47% des Français qui étaient favorables au nucléaire. Là, on est brutalement monté à 59%. Pourquoi ? Parce que, je dirais, entre différents risques. Est-ce qu'il vaut mieux des centrales nucléaires ou est-ce qu'il vaut mieux le réchauffement climatique ? Il faut répéter aux gens que les centrales nucléaires ne contribuent pas au réchauffement climatique. Mais c'est la raison d'autres inconvénients. Bon, le choix évolue. Et si vous voulez, ça va être comme ça sur plein de sujets.
Mais, juste sur ce sujet, vous ne croyez pas au modèle des énergies renouvelables à grande échelle en 2050 ?
Mais le nucléaire, je pense que c'est... D'abord, je suis pas spécialiste du nucléaire, mais le nucléaire, si vous voulez, c'est perçu comme une énergie de transition. C'est-à-dire, à terme, sans doute que les énergies seront renouvelables, mais peut-être pas en 2050. Donc, si vous voulez, c'est là où il faut faire attention dans les étapes du temps. Et puis, en plus, la France a énormément investi dans le nucléaire. Donc, je veux dire, on n'a pas de l'argent. On n'en aura plus tellement de l'argent dans les années qui viennent, vu qu'on est en train quand même d'en dépenser beaucoup. Enfin, il y a tout ça à mettre. Si on pouvait faire tout en renouvelable en 2050, ça serait parfait. Mais disons que les spécialistes n'ont pas l'air d'accord sur cet objectif.
L'actuelle pandémie du coronavirus nous incite déjà à prendre des décisions pour nous adapter. Par exemple, en allant vivre, eh bien, là où il y a plus d'espace. Est-ce que cela préfigure notre future façon de vivre ?
Si vous voulez, moi je pense que cette pandémie est une immense rupture culturelle. Pour l'instant, ce qu'on vit tous, c'est les problèmes de vaccins, de personnes malades, de deuil, etc. Donc on vit dans la tragédie et dans le fait qu'on a du mal à voir la sortie. Bon, ça c'est au quotidien, c'est à l'intérieur. Mais la rupture historique, elle est absolument gigantesque. Si vous voyez, dans l'histoire de l'humanité, le fait que 5 milliards d'hommes aient les mêmes comportements, que 1 milliard des enfants sortiraient des écoles, etc., que tous nos laboratoires de recherche travaillent sur le vaccin, sur toute la planète, etc., c'est jamais arrivé dans l'histoire humaine. Donc si vous voulez, il y a là un commun qui est en train de se construire, et aussi une nouvelle utilisation de la frontière. Donc je veux dire, alors qu'avant il y a une espèce de discours, il fallait que tout soit ouvert, l'économie devait être sans aucune frontière, ou alors il y avait des nationalistes qui voulaient dire qu'il faut fermer toutes les frontières. Là on a vu qu'on pouvait réguler entre coopération et frontières. Bon. Donc je pense que là on a des acquis qui font que ça devient possible de se battre contre le réchauffement climatique, si vous voulez, parce que, non seulement d'un point de vue scientifique, mais aussi parce qu'on s'est rendu compte que nos comportements étaient plastiques. Je dis pas qu'on va être enfermé pendant 30 ans, évidemment.
Quand vous dites que nos comportements sont plastiques,
privés,
ils sont...
Ben, regardez. On s'adapte, si vous voulez. Si on vous dit, effectivement, par exemple, vous prenez les calanques à Marseille, on voit bien qu'il y a trop de monde qui va... On va dire aux gens, écoutez, vous ne pouvez peut-être y aller qu'une année sur deux. On n'ira qu'une année sur deux.
Mais on va aller... On va aller habiter, par exemple, dans un lieu peut-être autre, qui lui-même sera différent. Les villes seront... Les grandes villes seront végétalisées. Et puis on pourra vivre, après tout, puisqu'il y a Internet, on pourra vivre à proximité d'une ville moyenne, mais on n'est pas obligé de vivre en ville.
Mais c'est un phénomène qui est déjà là depuis 10 ou 20 ans. Paris a perdu 59 000 habitants ces 10 dernières années, et en gros, la province gagne de la population. Mais ce qui se passe, si vous voulez, c'est que la toile Internet, c'est 2006, le début où la toile Internet est puissante, l'invention de Twitter. C'est pas vieux, Twitter. Bon, depuis... Petit à petit, les métropoles ont acquis une puissance énorme. En France, vous avez 8 grandes métropoles qui font 61% de la production et de la richesse. Pour à peu près 40% de la population. Donc vous voyez bien que ce sont les métropoles qui sont devenues les hubs. Moi, je dis c'est les mines du 21e siècle. Et le problème, c'est que ça a été vrai jusqu'à la pandémie. Mais déjà, un certain nombre de gens se disaient, bon, attendez, aller à Paris, à Marseille ou à Nantes une ou deux fois par semaine, c'est très bien, mais je peux habiter à une heure en train ou habiter à la campagne.
C'est les gilets jaunes et les travailleurs bobos ? Les télétravailleurs bobos ?
C'est pas, oui, mais ils vont pas au même endroit. Si vous voulez, les gilets jaunes, c'était soit des gens du rural, j'allais dire profond, comme on disait à l'époque, qui étaient venus travailler en ville en restant, j'allais dire, dans leur village. Soit beaucoup des gens des lotissements. Il faut avoir une idée dans la tête. Il y a 16 millions de maisons avec jardin en France pour 12 millions d'appartements. Et en réalité, 63% des Français habitent déjà dans des maisons avec jardin. Et ceux qui habitent en appartement, ils ont 3 millions d'une famille ou une résidence secondaire. Donc il faut faire attention à l'image qu'on a. La grande majorité des Français ne vivent pas dans un appartement. Et donc, si vous voulez, et dedans, il y a deux mouvements. Il y a celui des Gilets jaunes. En gros, c'était du lotissement périurbain, mais non socialisé. C'est-à-dire, c'est des gens qui avaient essentiellement choisi un terrain en fonction de son prix et de sa distance aux deux lieux de travail. Puis, ce sont des couples biactifs. Et il se trouve que ça donnait des territoires. Ils se sont réunis où? Sur les ronds-points, parce qu'ils n'étaient pas structurés par des communes. Ils n'ont pas dit, je vais habiter à telle commune pour telle raison. C'était, je vais être à moins d'une heure de mon boulot, sur un terrain pas cher, pour avoir ma maison. Et c'était des milieux populaires en promotion sociale qui étaient enfin propriétaires. C'était ça leur victoire. Et d'un coup, on leur a dit, votre modèle est nul, il faut aller habiter dans la ville, il faut faire du vélo, etc. Et c'est, rappelez-vous, ils ont démarré quand on a augmenté les 80 km/h et le prix de l'essence. Les télétravailleurs bobos, si on peut prendre l'image, au fond, c'est pas la même chose. Ce sont les gens-là qui sont en train de quitter Paris, par exemple. Il y en a 540 000 qui ont quitté Paris pendant la première pandémie. Eux, ils vont essentiellement dans la France des résidences secondaires. C'est-à-dire France patrimoniale, dans des villes qui sont à moins d'une heure en transport, en train, généralement, de Paris. Vous voyez, une ville comme Tours a un très gros succès. C'est 1h05. Et vous êtes au bord de la Loire. Vous voyez, je dirais la ville a deux ailes, quoi. Il y a une aile gilet jaune en lotissement et une aile travailleur bobo dans une France patrimoniale.
Et c'est dans cette optique que devront se réorganiser les relations entre les villes et les campagnes?
Mais il y a d'abord, si vous voulez, la réorganisation entre cette France extérieure aux métropoles, mais qui y vient une ou deux fois ou trois fois par semaine. Bon, ça, c'est le cœur du modèle de la société. De l'autre côté, vous avez 53% des sols qui sont toujours en terre arable et 27% qui sont en forêt. Donc, en gros, vous avez encore un immense territoire agricole et forestier. Celui-là, il est face à un immense projet de transformation, trop lent, pas toujours bien porté, avec des débats, mais en gros, dans lequel on produit de la nourriture, des vêtements, on peut capter de l'énergie, on produit du bois, et donc on peut faire des éoliennes, etc. Donc là, il y a deux frances, j'allais dire. Il y a la France des hectares, on pourrait dire, et la France des milliards. Et entre les deux, on habite. Donc c'est un immense ville-jardin autour des métropoles, c'est déjà le cas, je pense que ça va s'accentuer. Et puis c'est un retour de la ville moyenne, parce qu'elle est patrimoniale, parce qu'elle a souvent un bon lycée, parce que, vous savez, les gens, leur gros problème, évidemment, c'est la bonne éducation de leurs enfants. Donc quand ils se déplacent, la première chose qu'ils regardent, c'est où est-ce qu'on peut scolariser les enfants.
Et la place des médecins, et or, les médecins sont de plus en plus rares dans ces villes un peu lointaines.
Oui, ils sont surtout très rares dans le rural, si vous voulez, dans des zones, parce que la France n'est pas homogène. Vous avez des territoires, prenez le cœur de la Bretagne, prenez des zones comme ça, si vous voulez, qui sont encore en train de s'affaiblir. Mais l'essentiel du territoire est plutôt en train de se reconstruire. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas faire de moyenne, si vous voulez. C'est vrai que vous prenez les Alpes du Sud au-dessus de Digne, c'est charmant, mais c'est difficile, vous voyez. Donc là, vous avez des zones en dépopulation. L'essentiel des villes moyennes sont plutôt bien dotées en santé, en éducation.
Et si en 2050, on se voit surtout via Internet, je parle de nos échanges relationnels, est-ce que vous croyez pour autant qu'on se déplacera beaucoup moins qu'aujourd'hui en avion, en voiture, en moteur, en polluant?
D'une part, je pense que on a tous modifié par notre rapport à l'avion. Les réunions d'entreprise vont sans doute être marquées par cette pandémie. Parce qu'avant de payer un voyage à quelqu'un, on va lui dire « Attends, tu ne peux pas le faire par Zoom ». La vérité, c'est qu'on peut faire un Zoom avec quelqu'un qu'on connaît déjà. C'est très difficile de faire une réunion Zoom avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, parce qu'on, je veux dire, il y a plein de choses qu'on voit quand on se voit physiquement, et pas, c'est pas la même chose par le numérique. Mais moi, ce que je crois, si vous voulez, c'est que, vous savez, la dernière guerre a marqué l'arrivée dans la société pétrolière. C'est-à-dire, en gros, on a tous eu des voitures, pour généraliser, mais à peu près tous. Avant, c'était pas vrai. Bon. Aujourd'hui, on a tous acquis la culture numérique et on est tous équipés, y compris dans l'intrafamilial, les grands-parents, les petits-enfants, etc. Et puis le télétravail, à temps partiel, va certainement se développer massivement. Et donc, une partie des déplacements vont diminuer. C'est pour ça que je plaide pour la diminution des ronds-points.
Oui, vous n'êtes pas favorable aux ronds-points, ce ne sont pas vos amis. Hein.
Il y en a 63 000 en France à 1 million pièces.
Payés par l'Europe.
Par l'Europe ou par la France. Un maire qui n'a pas ses ronds-points n'est pas considéré comme un grand maire aujourd'hui. C'est une espèce de symbole de l'élu local. Attendez, les Allemands en ont 5 000, les Américains 10 000, donc il doit quand même y avoir un espèce de délire rationaliste qu'il faudrait surveiller.
Il paraît que le rond-point évite les accidents, contrairement au stop.
Oui, non mais il y a des ronds-points très utiles. Attendez, je ne suis pas un adversaire radical, mais je dis si on en a 6 fois plus que les autres, peut-être il y a une question à se poser.
Mais Jean Viard, d'un point de vue démographique aussi, les choses vont changer. En 2050, il y aura 140 000 centenaires, il y en a 26 000 aujourd'hui, et les plus de 60 ans seront plus nombreux que les moins de 20 ans.
Et oui, d'abord, ça augmente ma chance d'y arriver, mais enfin, c'est quand même pas tout à fait certain. Mais si...
pourquoi pas? Vous avez un ami qui vieillit fort bien, qui est Edgar Morin.
Absolument, et je continue à le publier. Et je pense qu'effectivement, il se défend intellectuellement très très bien. Non, mais si vous voulez, ce qui est surtout vrai, c'est l'équilibre des générations qui sera pas le même, puisqu'il y aura moins de jeunes. Alors, cette année a été catastrophique pour les naissances sur toute la planète, parce qu'en gros, dans une période de pandémie, on n'a pas envie de faire des enfants, c'est trop compliqué. Donc, partout, ça a baissé, pas qu'en France. Mais il y a un mouvement de fond, ça va aussi jouer sur la question de l'immigration, c'est-à-dire quelles seront les politiques migratoires, est-ce qu'on sera sur un modèle japonais où en gros on remplace notre jeunesse par des robots, c'est pour ça qu'ils sont leaders mondiaux des robots, qui vont quasiment tout faire dans la maison et dans l'entreprise, ou est-ce qu'on sera beaucoup plus sur une politique migratoire entre l'Afrique et l'Europe. Si vous voulez, ces deux questions, en fonction de ces choix, on aura un équilibre différent. Mais de toute façon, il y aura plus de personnes âgées que de jeunes.
Et puis on l'a un peu abordé en début d'entretien, 2050, quelle sera la place du politique? Je vous pose la question autrement. Où seront les réels centres de décision?
C'est difficile à répondre. Vous savez, dans une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps, quand on demande aux gens qu'est-ce qui défend le mieux les valeurs républicaines, qui les symbolise, il y a d'abord l'école, après la mairie, et après les petites et moyennes entreprises, alors qu'on n'aurait pas forcément pensé les mettre là. Et puis après, vous avez la police, etc., puis le président de la République qui est en 6e ou 7e fonction. Oui, oui. Ça veut dire qu'au fond, le maillage du local, c'est ça qui constitue le corps de la société. Les petites entreprises sont très appréciées par les Français, et encore plus après cette pandémie. D'ailleurs, les grandes ont aussi regagné en légitimité. C'est-à-dire, en France, on a toujours fait comme s'il y avait d'un côté le tissu politique, j'allais dire du maire au président de la République, et puis de l'autre côté, les entreprises, plus ou moins des patrons arnaqueurs, si dans l'imaginaire commun. On se rend compte que c'est pas vrai. Je veux dire, les gens savent très bien que les entreprises maillent le territoire, créent de l'emploi, développent des services. Et donc, la question, c'est comment on articule les entreprises, qui sont au fond la force de création de richesse, et les structures du politique. Je pense, si vous voulez, qu'on aura des changements, parce qu'on a créé beaucoup trop de structures électives où il y a de moins en moins d'électeurs. Donc, le modèle est un peu absurde. Plus on multiplie les niveaux, vous voyez, communes, communautés de communes, départements, régions, Europe, etc. Moi, il y a des gens qui vont voter. Donc, ça veut dire que le modèle a besoin d'être transformé pour qu'à nouveau, on ait des gens qui incarnent vraiment les territoires. Vous savez, je prends souvent un exemple. Il y a 240 000 personnes des Hauts-de-France qui viennent tous les jours travailler à Paris. Mais elles sont représentées par personne. Quand on fait la gare du Nord, ça devrait être eux qu'on consulte en premier, parce qu'ils y passent tous les jours. Eh ben non, on va demander l'avis de la mairie de Paris. C'est très normal que la mairie de Paris donne son avis, mais enfin, les gens de la mairie de Paris n'y vont jamais.
Et dans une trentaine d'années, que sera devenue la participation citoyenne qui semblait tellement en vogue dans les années 2020?
Je ne sais pas, si vous voulez. C'est difficile de répondre à cette question, mais en même temps, ce qui est clair, c'est que la société se structure par ses associations, ses ONG. Regardez les jeunes, ils sont très très peu dans des partis, mais ils se battent pour des causes. Et donc, si vous voulez, il se peut aussi qu'on ait une nouvelle organisation de cette société, c'est-à-dire que les gens se battent pendant un moment pour un sujet. Et puis après, ils passent à autre chose. C'est comme les gens, par exemple, qui vont au Resto du Cœur ou qui vont à la Croix-Rouge. Avant, j'allais dire, c'est un engagement à vie, ça dépendait de valeurs religieuses, familiales. Maintenant, vous avez des gens, comme on a tous des vies en rupture, on se sépare, on déménage, etc.
Oui, il y a quand même de la souffrance, il y aura au moins un temps de convalescence. Et
évidemment qu'il y aura de la souffrance, mais il y aura toujours de la souffrance.
Et donc,
il y aura toujours des gens qui, effectivement, iront par moment s'en occuper.
Il nous reste une minute. Compte tenu de tout ce qu'on vient de dire, est-ce que la loi climat, résilience, en ce moment débattue à l'Assemblée nationale, vous semble répondre à tous ces défis?
Je ne suis pas là pour juger l'ensemble des choses.
Disons un peu, que c'est un pas. Si ce n'est pas juger, c'est avoir un éclairage en tout cas.
C'est un pas, si vous voulez. On serait allé peut-être plus loin sur certains sujets, ça ne m'aurait pas empêché de dormir. Et en même temps, si vous voulez, je pense que chaque fois, on avance. Une société, c'est un immense monde de négociations. Alors, est-ce qu'on avance assez vite? Moi, mon cap, c'est la COP21. Et je pense, si vous voulez, qu'on a deux objectifs à garder en tête. 1,5 degré en plus, on se prépare. La COP21, on applique à 100%. Si on est sur cette ligne, on peut peut-être passer.
Merci Jean Viard. Et puis je renvoie au dernier numéro de l'excellent magazine Le 1 d'Éric Fotorino, où vous apportez votre contribution. Merci beaucoup Jean Viard d'être venu nous éclairer ce matin. Je rappelle vos derniers livres, Le Sacre de la Terre et La Page Blanche, paru aux éditions de l'Aube. Merci et bonne journée.